bienvenue à Pack the Pod, votre clubhouse pour ce rugby Coupe du Monde 2019 au Japon. Et franchement, on est super content d'être là et super content de partager ce Coupe du Monde entre nous. On est trois amis qui adorent le rugby. Moi-même, donc, je suis TK Terry Kaufman. Je suis américain de base, donc d'où l'accent. Ancien joueur de foot américain, mais j'ai aussi joué un peu au rugby avec mon ami Charlie Bayer qui est là avec nous aujourd'hui.
Ouais, salut les copains. Ouais, bah pareil, joueur et amateur de rugby aussi. Et très content d'être avec vous les copains ce soir.
Et aujourd'hui, Charlie, il a gagné.
Aujourd'hui, ah bah oui, ça fait deux semaines de suite. Merci de le relever. Aujourd'hui, gagné, bonus offensif. Voilà, on est heureux.
Charlie qui est capitaine de Massif Central. On a joué ensemble et maintenant il fait d'autres choses dans le rugby. Donc c'est notre rugby Rastaman. Et on est très content d'être avec Théo de Saint-Rémy qui m'a appris beaucoup de choses sur le rugby il y a très très longtemps parce qu'on est des vieux copains. Donc Théo qui a fait plusieurs postes et plusieurs clubs dans le rugby.
Ouais, j'étais une sorte de mercenaire, mais un mercenaire sympa. Voilà, donc un peu d'ACBB, un peu de rugby club Orléans. Beaucoup de puc et beaucoup de racing, mais surtout beaucoup d'amour pour le ballon ovale.
Et voilà, donc nous sommes vraiment contents d'être là. Donc Pack the Pod, notre podcast qui existe depuis pas très longtemps, c'est environ un mois que ça existe. On est vraiment contents d'être là parce que les gars, le Coupe du Monde, il a commencé et franchement, c'est juste superbe.
Ah bah là, on est gâtés, on est encore même sans match de l'équipe de France depuis notre dernier épisode de podcast. On a plein de trucs à dire, tellement on se régale.
Déjà deux grosses surprises, deux grosses victoires surprises. Belle semaine, on a passé une belle semaine.
Donc pour nos écouteurs, normalement nous avons un épisode tous les mardis soir ou mercredi matin. Comme nous avons un match d'équipe de France mercredi matin, nous allons essayer de sortir un bonus épisode rapidement juste après. Donc ça veut dire que ça va tomber le jeudi soir ou le vendredi soir. N'hésitez pas à chercher notre podcast à ce moment-là. Merci bien sûr à tous nos auditeurs parce que grâce à vous, nous commençons à avoir beaucoup d'écoutes. Donc ça nous fait plaisir. Donc est-ce que vous êtes prêts les gars?
Absolument.
On est tout à fait prêt, on est chaud, on est dans les starts, même si on a moins chaud que les copains de la Coupe du Monde à Doha, mais on est chaud.
Allez, on y va.
Pack de potes, terrain 10.
Si on fait un récap de tous les matchs de cette semaine, on peut dire que ça a commencé par la bataille des barbus, hein, si on l'a dit comme ça. Le jour J contre les Pays de Galles.
Ouais, avec une victoire assez large du Pays de Galles, 43-14. Et les Géorgiens qui sont, je trouve, un petit peu passés au travers dans l'engagement. Et moi, je m'attendais à une meilleure allure de l'équipe de Géorgie. Mais bon, par contre, ils se sont quand même bien rattrapés sur leur match suivant, hein, puisqu'ils ont foutu une belle raclée aux Uruguayens ce matin.
Qui pourtant nous avait bien surpris contre les Fidji. Mais moi, je le trouvais un peu sévère avec les Géorgiens parce que je trouvais que, franchement, vu comment les Gallois déroulaient, enfin, c'était vraiment impressionnant à voir, quoi. Cette belle machine, vu comment les Gallois déroulaient, moi, j'ai trouvé les Géorgiens assez, assez héroïques, quoi. Je les trouvais, après, peut-être pas dans l'engagement comme on les avait décrits, comme on les avait présentés un peu. Tu les attendais peut-être un peu plus durs, mais
Je les attendais plus durs et je trouve que c'est des équipes qu'on attend souvent dans un défi physique très fort sur la première heure. Et là, j'ai trouvé qu'assez vite, il n'y avait pas photo et qu'il n'y avait plus de match. Donc, voilà, j'étais un peu déçu, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils se sont bien repris contre une équipe surprise qui est l'Uruguay, qui avait effectivement battu les Fidji dans un match qui est typiquement le match de Coupe du Monde qu'on adore, c'est-à-dire encore des vraies petites équipes comme l'Uruguay qui arrivent à faire tomber une grosse équipe si on veut. Les Fidji, ça reste malheureusement une équipe du Pacifique avec les difficultés collectives qu'on les voit avoir, et là on l'a bien vu sur ce match-là où parfois le collectif pêche, c'est-à-dire qu'ils sont bons mais ils vont trop loin, on a l'impression qu'ils jouent à 7 quoi sur certaines phases de jeu, et les autres ils sont dans un match de rugby à 15 où ils sont là pour mourir sur le terrain, c'est complètement dingo. Et d'ailleurs à la fin ils interrogent le capitaine, le mec il est en larmes, il dit j'aime mon pays, il mélange tout, il est à fond et c'est mythique quoi. Et là tu te dis le mec il a juste réussi sa vie quoi, c'est hallucinant, c'est magique.
Et tu vois le capitaine de Uruguay, il est tout petit par rapport aux Fidjiens qui en face.
Tout petit, c'est un troisième ligne de fédéral, ouais. Le mec il mesure 1m70 et il joue numéro 6. C'est complètement improbable.
C'est sûr. Pour le match de Pays de Galles, en fait, j'ai trouvé que le premier mi-temps c'était Pays de Galles et que c'est comme ils jouaient au toucher en fait, parce que les Géorgiens, ils n'arrivaient pas à le mettre de main dessus, c'est tout simplement ils n'arrivaient pas à les toucher comme les Gallois étaient vite et parfaites. Après les Géorgiens, c'est un peu comme nous, c'est des avants, hein. Donc ils ont l'aval, tout ce qu'ils ont envie de faire c'est d'entrer dans quelqu'un, le mec qui est en face. Donc finalement le deuxième mi-temps c'était un peu mieux pour eux, je pense que c'était match égal pour le deuxième mi-temps, mais quand même oui, Pays de Galles montrait beaucoup de force lors de cette victoire 43-14.
Alors si on peut pas parler du coup un peu des Gallois et du coup un petit peu dans le désordre. C'est vrai que les Gallois, ils ont fait un bon match contre les Géorgiens, qui était bon match d'entrée en Coupe du Monde. Et puis là, le sommet pour eux du début de Coupe du Monde, c'était aujourd'hui contre les Australiens. Et là, franchement, on a eu à nouveau un match très, très beau, très disputé. Ils finissent devant. Donc, ce que ça veut dire, les gars, on sera amené à en reparler, hein, c'est que si on sort de la poule, ce qui n'est pas encore gagné, bien qu'on ait battu les Argentins, on va peut-être être défait sur tapis vert ou presque
par le typhon, mais ça,
on va y revenir. C'est du coup... Si nous, on sort, ce sera probablement deuxième. Et ça veut dire que probablement, on jouera contre les Gallois en quart de finale. Voilà, ça, c'est l'info du jour quand même.
Oui, bon, on en parlera un peu après. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, c'est une équipe qu'on connaît un peu plus que les Australiens. Donc, si on parlait aussi de Russie, parce que la Russie, bon, ils ont perdu contre la Samoa 34-9, donc logique. Mais en même temps, cette équipe de Russie, ils sont venus, personne n'en a rien d'eux. Ils ont quand même mené 80 minutes sur 160. Ils ont mené les deux équipes en face, donc le Japon et le Samoa. Bien sûr, bon, ils n'ont pas gagné leur match, après ils ont laissé beaucoup d'essais passer, mais je trouve qu'ils ne sont pas ridicules, ils sont là, ils se défendent bien, ils ont un super moustache à partir de leur capitaine, franchement, au niveau de moustache, bravo.
Plus qu'au niveau barbe, ouais, ils sont pas mal. Moi, je trouve que les Russes, ce qui fait plaisir, même si c'est une nation, hein, on sait qu'ils se sont ramenés là un peu par hasard. Hein.
C'est les derniers arrivés, je pense, dans le...
C'est les derniers arrivés, puis surtout c'est suite à une magnifique foirade de World Rugby qui a réussi à faire arbitrer un Espagne-Belgique par un trio d'arbitres roumains dont en fait la fédération avait tout intérêt à ce que la Belgique ne passe pas. Donc c'était un match à 150 000 pénalités contre la Belgique ou un machin comme ça. Du coup après il y a eu bagarre à la fin, etc. Ils ont disqualifié tout le monde, Roumains, Belges et Espagnols, et les Russes se sont retrouvés dans le bon wagon et un peu par hasard ils sont à la Coupe du Monde, mais normalement ils n'étaient pas là. Par contre, ce que je trouve avec ces deux matchs qu'ils font, c'est qu'ils prouvent qu'ils ont des joueurs qui ont du caractère et que c'est une équipe qui peut-être grandira. Voilà, grandira. Et c'est sympa de voir des petites nations comme ça. On n'était pas habitués, quoi. On était plus habitués à voir la Roumanie que la Russie. Et moi, je suis content de voir Siruskov. Et ils se sont pas troués, je trouve. Ils font leur job.
Ils donnent envie de revoir, comme le numéro 3 de Samoa, qui est un gros monsieur quand même. Il est beau, barbu, c'est tout ce que j'aime.
Ah, c'est un des plus longs,
je crois. Je sais plus son nom. On essaiera de trouver une photo qui le met un petit peu en valeur, parce que des physiques comme ça, oui, dans le sport de haut niveau, moi je valide. Je suis toujours content de voir des sportifs de haut niveau avec des physiques qu'on va qualifier de pas forcément 100% athlétiques. Le numéro 3 des Samoa, c'est pas Kevin Mayer, hein, c'est un autre type de sportif. Ouais.
Je pense qu'ils peuvent facilement, ils peuvent facilement jouer dans la NFL à cette taille-là quand même.
Ah, je pense qu'il peut être pusher. Ouais.
Allez, on avait aussi ce fameux match. Donc pour beaucoup de personnes au début de semaine, c'était le match de ce Coupe du Monde. C'était Fidji 27 qui était battu par l'Uruguay et vraiment un niaque et envie, une équipe, une solidarité d'équipe vraiment phénoménale de cette équipe d'Uruguay. Donc c'était le match du tournoi jusqu'à là.
Ouais, c'était la grosse surprise qui avait commencé cette semaine. C'est vrai que j'ai un peu regretté parce que l'Uruguay, dans la présentation qu'on avait faite, on était très très succinct. Du coup, je m'en suis un peu voulu, mais Théo en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait dans cette équipe ce côté latin un peu qu'on connaissait aux Argentins. Mais des mecs qui vont crever pour le maillot, quoi. Au Deline, tu sens qu'ils sont vraiment là pour, ils se sentent poussés un honneur ou un devoir, je sais pas, de victoire, de faire parler de leur pays face à des Fidjiens qui étaient en effet un peu, qui semblaient un peu en dilettante. Je pense que tout le match, ils se sont dit, on finira par remonter. Il y a bien un moment, ils vont craquer, quoi. Je pense qu'ils ont été surpris par ces Uruguayens.
Ouais, le mot-clé, on va le dire en espagnol, c'est Corones, quoi. Les mecs, ils ont vraiment été au bout de ce qu'ils pouvaient. D'ailleurs, il y a deux ou trois mecs qui sont sortis pétés. Enfin bon, ils ont vraiment tout donné. Et je pense que malheureusement, les Fidjiens, ça peut arriver quand on est sur une compète où on fait un bon match. Ils avaient fait un bon match, hein, contre les Australiens. Ils ont dû se dire, bon, on se concentre sur le match suivant et puis l'Uruguay, ça, c'est une espèce de formalité. Ben non, erreur. Sauf qu'il y a quand même 15 mecs en face. Les Uruguayens, ils n'étaient pas du même avis et ils s'y sont filés comme des malades. Et ça, c'est vrai qu'il reste une certaine fraîcheur, en fait, avec ce genre de match-là. Et c'est super sympa à voir parce que tout simplement, ils sont pas tous professionnels. Ils sont au Japon, mais ils sont un peu en vacances. Je veux dire, c'est pas des mecs de l'ATP qui parcourent le monde, la terre entière, quoi. Il y en a qui jouent à droite à gauche, quelques-uns en Uruguay, quelques-uns aux États-Unis, mais ils sont aussi dans l'aventure de leur vie. Et ils vont au bout d'un truc, et ça, c'est magnifique. Voilà.
Je pense que ça se sentait surtout à la fin où ils s'embrassaient tous. Ils étaient tellement contents, mais c'est aussi une question d'être vraiment presque parfait au pied. Je pense qu'il était 7 sur 6, le numéro 10, là, qui était vraiment parfait au niveau de pied, mais en face, ce n'était pas du tout le cas. Des erreurs, comme tu as dit aussi, bah, Fidji peut-être fatigué après leur match contre l'Australie et envie de garder un peu de force pour le match contre Pays de Galles.
Et puis ce qui est triste, c'est que du coup les Fidjiens, bah, on sait qu'ils sortent, quoi. C'est fini pour eux, c'est fini. Et on est toujours, voilà, on l'a déjà dit, hein, mais toujours désolé, on court après cette équipe du Pacifique qui irait un jour en quart ou en demi. On n'y arrive pas, ils n'y arrivent pas, c'est toujours un peu décevant.
Il y avait une petite statistique que je trouvais intéressante là-dessus, c'est que la dernière fois ils ont joué, le Fidji a gagné 68 à 7. Donc c'est un peu normal qu'ils avaient un peu de confiance en allant dans le match.
Ça prouve aussi que les Uruguayens progressent malgré tout. Alors d'ailleurs, moi j'ai regardé un peu la compo, il y en a quand même pas mal qui jouent aux États-Unis. Donc ça veut dire que le rugby américain qui se structure, on en reparlera peut-être un petit peu juste après, bah, il contribue aussi à faire. Progresser un certain nombre de joueurs qui sont dans des équipes un peu mineures, mais qui, en s'aguerrissant sur le circuit américain, le championnat qui se structure là-bas, ben, voilà, ils gagnent de l'expérience et ils arrivent à sortir des gros matchs dans des grands moments, quoi.
Alors moi, je voulais juste revenir sur Théo, ce que tu as dit par rapport à la fatigue des Fidji. Je pense que c'est très démonstratif de quelque chose qui va arriver pour la France aussi, des phases qui sont un peu compliquées à gérer dans cette Coupe du Monde, mais qui, moi, font pleinement partie de la préparation et du travail des préparateurs physiques. Pour moi, ça fait clairement partie d'une technicité que là, bah, clairement, les Fidji ont raté, quoi. Ils n'ont pas été préparés à cet enchaînement.
Oui, ils sont passés à côté. Et puis, faut pas oublier que le rugby, c'est voilà, c'est pas du ping-pong ou du volley. Hein. On peut pas enchaîner les matchs comme ça. Donc, il y a une dimension effectivement fatigue, épuisement physique après les matchs qui est incontestable. Donc, c'est vrai que c'est des phases très très difficiles à gérer. Mais enfin, après les équipes, elles sont normalement coachées pour ça.
Donc, après, nous avons aussi vu. On va dire la puissance européenne contre l'Amérique du Nord, quand même, parce qu'il y avait Italie qui a bien mis un raclé sur le Canada. Pas grand-chose à dire, 48 à 7. Il y avait l'Angleterre, l'équipe B, on va dire comme ça, de l'Angleterre, qui a bien mis un raclé sur les États-Unis aussi, 47, 40, pardon, 45 à 7. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre par rapport à ça? Pas forcément pour les États-Unis.
Non, sur l'Italie, je dirais que ce que ça révèle, c'est que le Canada est une nation qui est quand même présente, qui est une nation qui est présente dans toutes les coupes du monde depuis longtemps. C'est une nation qui n'arrive pas à grandir parce que finalement, l'Italie, qui reste une petite nation de rugby, là, ils ont joué contre deux équipes plus faibles, ils ont mis deux fois des valoches, ils ont fait leur match, c'est très bien. Là, ils vont jouer maintenant les Blacks et l'Afrique du Sud. Ils vont en prendre 50 les deux fois. Enfin, c'est à peu près annoncé, hein. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc, on voit l'écart qu'il y a entre les très grands. Le Canada, qui est une équipe qui malheureusement n'arrive pas à grandir. Pour les États-Unis, je dirais que c'est un petit peu différent parce que ils ont été quand même moins bons les dernières années. Par contre, ils sont, je pense, sur une meilleure trajectoire. Ça reste anecdotique de prendre 40 points contre les Anglais. Ce qui est intéressant, c'est que surtout le rugby se développe beaucoup aux États-Unis. On a vu bientôt le transfert de Mathieu Bastaro là-bas dans la Ligue américaine. On voit qu'il y a des joueurs d'un peu partout qui y vont. Ça intéresse des Français. Peut-être qu'ils vont apprendre l'anglais là-bas, hein, j'en sais rien. C'est pas que pour le rugby. Mais voilà, en tout cas, effectivement, ces deux équipes nord-américaines, bon, elles ont quand même beaucoup de mal à exister face aux nations qui ont une culture rugby, quoi.
Ouais. Moi, j'ai le souvenir que les États-Unis, ils ont fait plutôt un bon match contre l'Angleterre il y a 4 ans, mais peut-être que mes souvenirs me trompent. Mais oui, sinon, j'avais deux choses à dire par rapport à ce match à l'Angleterre. Numéro un, tu avais déjà mentionné, Théo, que l'Angleterre, quand ils peuvent, ils vont toujours essayer de mettre un essai de plus. Et en fait, il y
Toujours.
avait le sonnerie du fin de match. Ils avaient le ballon en main et au lieu de taper, bon, ils ont essayé de jouer quand même. Il y a le numéro 20, je pense, de les États-Unis qui a réussi à récupérer le balle, et en fait après 2-3 minutes, finalement les États-Unis a finalement réussi à marquer l'essai contre l'Angleterre, et tant mieux. Je trouvais ça vraiment disrespectful, je sais pas, mais quand même tu gagnes 45 à 0 et tu as envie de mettre encore une, mais tant mieux pour l'équipe des États-Unis de le mettre une dans le visage quand même.
Bah, c'est quand même génial de marquer un essai aux Anglais. Voilà, au moins ils sont pas venus pour rien. Et puis sur des matchs comme ça, finir à zéro, c'est quand même toujours humiliant, quoi. Donc moi, je suis super content aussi que les Ricains aient pu marquer un essai.
Ouais, en plus qu'ils ont envie de faire un petit essai de plus, les Anglais, bon, j'ai pas trop apprécié. Donc je souhaite à la France toute bonne chose pour.
Ils hésitent jamais à appuyer sur le champignon.
Bon, j'avais une, il y avait quand même un joueur, je suis pas sûr si vous avez vu, qui s'appelle genre Genghis Khan ou un truc comme ça. C'est quelque chose Genghis. Et j'ai pensé à Genghis Khan quand même parce que ce mec, il c'est un remplaçant de pilier, je pense, et qui fait juste exploser les gens en face en fait. Et donc je vous invite de chercher son nom sur YouTube pour voir des clips de, en fait, de voir des petits Américains qui s'envolent quand ils sont attaqués par un camion par lui, comme lui quoi.
On va le regarder, on mettra également une petite image de lui.
Alors, il y en a un qui aura au moins pas fait le voyage au Japon pour rien chez les États-Unis, dans l'équipe des États-Unis. Moi, il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que le numéro 7, à vie, il va dans tous les bars rugby de partout sauf en Angleterre, il se fait payer des godets, parce que pour avoir cartonné enfin le Owen Farrell qui agace toute la planète rugby depuis un petit moment. C'était le premier rouge de la Coupe du Monde.
Le dénommé John Keel, ouais, il n'y a pas été avec le dos de la quille, c'est clair.
Je pense que lui, avec le dos de la main morte.
Mais par contre, moi, même si c'est Owen Farrell qui nous énerve depuis longtemps, moi, c'est vrai que je déteste voir ces images-là malgré tout. Et je suis content aussi que maintenant, le rugby évolue là-dessus et soit beaucoup plus sévère sur ce genre d'agression. Parce que tout simplement... au-delà de nous faire marrer, nous, c'est quand même, pour la santé des joueurs, c'est quand même assez dramatique, quoi. Donc là-dessus, moi, j'aime pas ça. Et même si c'était sur Owen Farrell, j'ai du mal à me réjouir, je dois dire.
La solution.
Bon, avant de parler des deux matchs qui étaient vraiment le plus intéressant de ce week-end, il y avait quand même Argentine qui a gagné contre Tonga, 28 à 12. Est-ce qu'on a appris quelque chose là, les gars?
Pas vraiment. Moi, j'ai vu beaucoup l'Argentine. Sur la première mi-temps, j'ai trouvé l'Argentine assez impressionnante, plus que contre nous. Peut-être qu'ils ont retrouvé leur jeu. Peut-être qu'ils ont voulu se réveiller de leur premier match raté.
Ouais, les Tonga ont fait une bonne fin de match, on va dire, mais c'est vrai qu'ils sont pas bien rentrés dedans.
Oui, peut-être c'est dû à ça aussi. C'est peut-être les Tonga qui ont déjoué au début et plus joué à la fin. Mais moi, vraiment, au début, les Argentins m'ont impressionné hein, sur la première mi-temps.
Est-ce qu'on envie que l'Argentine batte l'Angleterre?
C'est compliqué, pas franchement.
C'est difficile de répondre parce que ça, on va en parler après, mais ça va dépendre aussi de nos
perfs, ouais, contre
de nos résultats français contre les Américains et les Tonga, dans la mesure où, en particulier, si jamais le typhon se mettait à nous faire annuler le match, ça veut dire match nul. Et là, honnêtement, c'est la cata. Mais d'ailleurs, moi, d'un point de vue du règlement, j'hallucine complètement.
Je trouve ça complètement dingue. Ouais, ouais. Ça fait 10 jours que le typhon est prévu et qu'il n'y ait pas une solution de repli de changer de ville. Je sais pas, enfin, il y a bien une solution de repli.
Mais attends, le Japon, c'est grand. Ils peuvent envoyer les mecs à 300 bornes. Enfin, faut arrêter. Et je trouve ça complètement dingue.
Je pense que les typhons sont grands aussi.
Les typhons sont peut-être grands aussi, mais moi, ça me paraît absolument incroyable. Et c'est vrai que je trouve que ça donne un petit éclairage sur parfois le côté un peu incohérent des attributions de pays, de dates, etc. On voit ça avec le Qatar, que ce soit là le championnat du monde d'athlée ou le mondial en 2022 de foot qui va se jouer en hiver parce qu'il fait trop chaud là-bas. Et les gars, vous découvrez pas quand même qu'il y a des typhons au mois de fin septembre au Japon? Il faut peut-être se réveiller quand même sur l'organisation de compétitions comme ça. Même si moi je trouve ça génial que ce soit au Japon, on le fait pas à la période des typhons. Parce que imagine simplement qu'on fasse match nul et qu'on soit pas qualifié à cause de ça. Je veux dire, la coupe du monde, elle est par terre. C'est ridicule.
Oui, ok. Donc si j'ai bien compris, si c'est avant le match, donc c'est match nul pour les deux équipes, c'est bien ça?
Si c'est avant le match et même si c'est jusqu'à la mi-temps, il me semble. Jusqu'à la mi-temps, si le match est interrompu, c'est chaque équipe repart avec 2 points.
Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est 2 points partout,
oui.
Ce qui fait que c'est catastrophique d'un point de vue, oui, comptable pour une équipe comme la France.
Au lieu de 5 points qu'on va aller chercher, quoi. Donc ça fait une grosse différence.
Voilà, c'est-à-dire, hein, que même si on prend le bonus offensif contre Tonga et États-Unis, enfin contre Tonga, il reste qu'on n'a pas pris le bonus offensif, ouais, contre l'Argentine, il reste après le match de l'Angleterre. Et si dans le même temps, les Argentins et les Anglais font des bons matchs, etc., on peut se retrouver à passer à la trappe à cause de ça.
Écoutez, moi personnellement, je vois pas le problème, hein. 2 points pour les États-Unis, c'est très bien, je les prends. merci Typhoon.
Ouais.
Il y avait aussi Georgie contre Uruguay, donc Uruguay qui était content de leur victoire, mais quand même Georgie qui a retrouvé leur force et a battu l'Uruguay 33-7. Et Afrique du Sud contre Namibie, Afrique du Sud 57-3, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Cependant, on a eu le match de ce Coupe du Monde qui a remplacé le match d'Uruguay contre Fidji, le match de ce Coupe du Monde, Japon-Irlande, Japon qui a pu gagner 19-12 contre Irlande. Théo, je pense que tu as des choses à dire.
Ah bah, j'ai plus que des choses à dire, j'ai même presque un petit compte à régler, parce que là, lorsqu'on a fait notre dernier enregistrement, Charlie, moi j'ai dit que je pensais que les Japonais pouvaient gagner. Oui. Ça a été coupé au montage.
Ça a été coupé au montage,
mais je suis sûr que Thierry va nous retrouver ça.
On va essayer de trouver, oui.
Et toi, ton verdict, c'était que les Japonais allaient se faire, je te cite, marcher dessus. Alors, ils se sont peut-être fait marcher dessus, mais ils ont fait une planchette japonaise à nos amis irlandais. Johnny Sexton était dans la tribune. Les tauliers, ils ont été assez empruntés. Et les Japonais ont fait le match de leur vie avec une efficacité sur les rucks extraordinaire, avec une rapidité dans la transmission du ballon qui est fantastique. Et peut-être le plus bel essai de la Coupe du Monde sur l'essai qui marque en coin avec une passe sur un pas juste avant d'aller marquer pour finir ça.
Oui.
Franchement, je leur tire mon chapeau. C'est absolument exceptionnel. Alors, pendant les matchs de préparation, j'avais dit aussi, attention, le Japon, ils ont gagné contre les Sud-Africains en 2015. C'est chez eux. Ils se préparent depuis un certain temps et ce sont des gens méthodiques. Et d'ailleurs, j'ai vachement aimé les mots de leur entraîneur qui a dit, je pense que les Irlandais se préparent à ce match depuis une semaine. Nous, on s'y prépare depuis un an. Et ben voilà, à l'arrivée, je trouve que c'est une belle manière de conclure le
truc. C'est joliment dit. En effet, je fais volontiers mon mea culpa. Mais je ne m'en veux pas du tout. Sache que je n'ai aucun remords. Non, mais en effet, tu avais bien vu. Hein, tu les as sentis venir. Moi, j'étais dans l'état d'esprit irlandais. Tu vois, j'étais un peu dans l'état d'esprit irlandais. Ils m'ont surpris aussi. Il y a des superbes actions de jeu. L'essai dont tu parles, moi, il m'a fait penser. J'ai eu un petit flashback pour un essai qu'ils avaient mis contre l'Afrique du Sud aussi, justement, en 2015, pareil, en coin, en bout.
Même genre,
ouais,
même genre,
au bout,
tout
pareil,
à fait.
Beaucoup de passes très rapides et tout. Je trouvais que jusqu'au bout, ils m'ont fasciné, parce que enfin la fin de match, c'était royal, quoi. Le dernier essai qu'ils vont chercher et tout, ils m'ont vraiment impressionné. Et en effet, je l'avais pas vu venir. Et du coup, je pense que les Écossais, ils peuvent commencer à se poser des petites questions. Hein.
Ah bah les Écossais, ils ont du souci à se faire. Ah bah ça devient direction la sortie s'ils perdent, sans aucun doute. Et surtout, ils ont perdu Hamish Watson, qu'on avait vu dans le deuxième match de préparation contre les Bleus, qui a fait un match vraiment très, très, très convaincant, qui est un peu l'âme de cette équipe-là en termes de fighting spirit, même si c'est plutôt une expression irlandaise. Il n'est plus là, hein, il s'est pété, je ne sais pas quoi, la cheville ou je ne sais quoi. Il est out.
Le genou.
C'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Écossais. Non plus, qui vont peut-être rentrer à la maison plus vite que prévu.
Je voulais juste dire que, en fait, c'est pour ça que moi, franchement, j'adore le rugby, parce qu'il était 11h du matin, j'étais avec mes enfants et ma femme, on est en train de hurler à la télé debout, et franchement, c'est pas une mauvaise chose que ce rugby Coupe du Monde, ça se passe à je sais pas, 9h ou 10h ou 11h du matin.
Ah, c'est les petits déj.
Parce que franchement, c'est le petit déj de rêve. Avec toute cette énergie des équipes japonaises, on était debout en train de hurler, allez, 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 et quand ils marquaient, on était vraiment super contents. Franchement, c'était un sacré match, on a vécu plein d'émotions et c'était parfait, c'était un moment sublime.
Alors moi j'ai adoré un joueur, il y avait un petit papier aussi dans l'équipe là aujourd'hui, donc j'ai pas la science infuse dessus, mais c'est vraiment les profils que j'adore, c'est-à-dire que c'est un deuxième ligne, désolé les gars, oui j'ai toujours mon petit focus deuxième ligne, Luke Thompson, 38 piges, c'est le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde, il avait décidé d'arrêter sa carrière, donc c'est un Néo-Zélandais de naissance, qui a été, en tout cas il a le passeport, il peut jouer, ça fait des années, visiblement il parle extrêmement bien japonais et tout ça, donc c'est un mec bien intégré au Japon. Ce gars-là, il avait arrêté sa carrière internationale. Il était dans son canapé en train de dire à sa femme, oh là là, j'aimerais bien y être quand même. Elle lui a dit, bah, bouge-toi, chérie, je te soutiendrai. Et le mec, il y retourne et il gagne à la tête de cette équipe-là. Ça me fait rêver. Alors, c'est vrai que les Japonais, ils vont chercher du néo-Z, en particulier pour les postes où il faut quelques centimètres. Lui, il fait 1m96, 108 kilos. C'est pas non plus un monstre. Mais les Japonais, ils n'ont pas trop ces gabarits-là. Pour tout le reste, franchement, ils ont beaucoup de joueurs à consonance japonaise dans les noms. Donc, c'est une équipe qui est quand même assez authentiquement japonaise. C'est pas non plus une armée de mercenaires tous naturalisés. Il y a beaucoup de gars qui sont natifs de l'île.
Moi, dans l'équipe du Japon, y a un petit gars qui m'a bien plu, il s'appelle Shita Horie, c'est le talonneur du Japon. Et si Tiquet nous repère dans chacune des équipes de jolies barbes, je me suis rendu compte qu'il y a aussi de jolis dreads 2 dans les équipes. Et que ce petit talonneur me plaît bien, il a une très belle coupe. Et il fait partie de... Voilà, je pense que dans chaque équipe, il y a un dread 2. Il y a le 8 du Pays de Galles aussi. Il y a aux États-Unis aussi, il y avait un...
Et écoute, c'est Charlie, en tant que le rugby rastaman de Pack the Pot, t'as tout à fait droit. Hein,
voilà, c'est ma petite parenthèse style et coiffure, voilà.
Mais il était quand même joueur du match de ce monsieur.
Ah oui, non, en plus de ses qualités capillaires, il a des qualités rugbystiques.
On mettra bien entendu sur le Facebook quelques images des dreadeux, comme les appelle Charlie, pour lui faire plaisir et aussi pour que chacun puisse se faire sa petite idée.
Théo, tu avais parlé de Thompson and Nevo Z. En fait, j'avais envie de parler de lui aussi parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de papa. Et c'est un nouveau terme pour moi en français. Tu vois, tu parles de papa. Je dis, OK, ça veut dire quoi exactement? Ah oui, ça veut dire en gros un bon joueur avec un vétéran avec un certain bouteille. Lui, c'est presque un papy avec le cheveu blanc qu'il avait dans la barbe. Je disais, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait là?
C'est fou.
Quand il sortait du terrain, comme moi quand j'avais 40 ans, 41 ans, comme mes derniers matchs de rugby, bah, c'était difficile de même sortir du terrain. Quoi.
Ouais, mais lui, il est à la Coupe du Monde, quoi, c'est ça. C'est là où c'est un vrai papa.
Ouais. Exactement. Et sur le j'aimais bien aussi le talonneur parce que je trouve qu'il a un visage qui me fait penser à Tana Umaga, juste un gars, un type c'est avec vrai, un ouais, visage vraiment différent qui fait en fait tu as envie que ces gens-là réussissent, ils sont tellement différents, ils deviennent beaux ces mecs-là, c'est vraiment quelque chose à voir. Bon, cette Japon-Irlande fantastique à voir, et en fait on était vraiment gâtés parce que le jour après on est gâtés par un Australie-Pays de Galles.
Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai vraiment vibré sur les deux matchs de façon assez différente. Les Australiens et les Gallois, c'est une équipe, les Australiens qui réussissaient pas aux Gallois depuis pas mal d'années, donc là ils ont réussi à les battre en menant assez largement puis en étant repris. Et ils gagnent 29-26, donc d'assez peu. Ça reste un match vraiment très disputé. Mais là, on est sur le très haut niveau mondial. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est indécis, ça peut basculer des deux côtés. Et on voit de très belles choses des deux côtés, avec des troisièmes lignes hallucinantes dans les deux cas. Et puis une qualité de numéro 10, en particulier Dan Biggar, avec son jeu au pied dès le début du match. Enfin, c'est chirurgical. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque que les deux premiers essais des Irlandais contre le Japon et les deux premiers essais du match Pays de Galles-Australie sont tous les quatre essais. Ce sont des jeux au pied chirurgicaux tapés par le 10 avec essai derrière. Et vraiment, je trouve que c'est la grande évolution de ce sport-là. De plus en plus, les défenses sont tellement performantes à plat que ça devient l'arme absolue d'être extrêmement adroit pour placer ses passes au pied et d'être extrêmement adroit pour les récupérer. Et on voit que c'est danger total dès que c'est bien tapé. Donc moi, j'adore parce que c'est très indécis le résultat toujours. On voit ce ballon qui monte, on retient un peu sa respiration. Et puis là, on a eu sur les deux gros matchs, il y a quatre essais marqués comme ça. Hein. C'est magnifique. Hein.
Bon, quand tu parles de retenir l'espération, franchement, avec le Japon Irlande, on poussait derrière le Japon, mais en fait, bon, celle-là, on voyait Australie en train de remonter parce que Pays de Galles qui a marqué en 30 secondes, ils ont mis les premiers 3 points, ils avaient vraiment le match en main pour la première mi-temps, et après, on voit Australie qui commence à vraiment rouler, et quand ça roule, Australie, c'est quand même une grosse bête, donc c'était quand même dangereux à voir. Donc moi, je retenais mon souffle, c'était difficile à regarder les dernières 10-15 minutes de ce match-là.
Parce il y a beaucoup de tension, on est un peu crispé sur le canapé. Hein.
Ah oui, grave.
mais après c'est super agréable aussi, parce que contrairement au Japon, moi, j'étais pas pour une... Je m'en fichais un peu de savoir qui gagnait, quoi. C'était une sorte de crispation pour le jeu, quoi.
Tout à fait. Pour nous, c'est un peu secondaire. En plus, on sait que les deux équipes vont sortir. Après, la seule question, c'est est-ce qu'on préfère jouer, nous, contre les Australiens ou contre les Gallois? Alors moi, je trouve que les deux, en imaginant qu'on est deuxième de la poule, on rencontre le premier de cette poule-là. vraisemblablement ce sera les Gallois. Moi je pense que c'est plutôt mieux comme scénario parce que c'est une équipe qu'on connaît beaucoup mieux.
On connaît absolument.
On s'est troué au dernier tournoi destination contre eux, mais on les menait 16-0 à la mi-temps.
On les avait.
Donc on sait très bien qu'on peut les secouer et ils savent très bien qu'on peut les secouer aussi. Alors que les Australiens, ça reste une des nations majeures du Sud, il y a toujours un petit complexe et on a beaucoup plus de mal à rentrer dans ces matchs-là. Donc moi je pense que c'est peut-être mieux pour nous de tomber si on arrive à finir deuxième. On a l'habitude, on l'avait déjà fait en 2011. C'était passé à pas grand chose, mais c'était passé.
Ouais. D'après les Gallois, c'était passé grâce à l'arbitre.
Bien sûr. Bah, nous, on s'était bien fait enfler en finale.
En fait, j'étais impressionné par Hooper parce que je ne connaissais pas du tout ce mec. Ouais, le sacré aussi, joueur. Le capitaine. Et c'est un sacré joueur quand même. Il a marqué dans les deux derniers matchs. Et
il a des épaules. Lui, à la muscu, ouais, il ne doit pas être bon à prendre. Je ne le prends pas au concours.
Il ne doit pas trop rigoler.
C'est vrai. Bon, c'est franchement, c'était un week-end superbe de rugby. Quand j'ai regardé la semaine dernière, je disais, oui, OK, il y a un ou deux matchs qui seraient intéressants, mais finalement, c'était toute une semaine super intéressante de rugby. Donc, vraiment, merci Coupe du Monde, merci Japon pour ce super, super semaine. On a quand même des choses à venir. Donc, on a une semaine avec plein de matchs aussi, mais notamment, il faut qu'on parle de notre prochain match de la France. France, les États-Unis.
Oui, alors, est-ce qu'on fait notre prochain épisode en anglais, Thierry?
Hey, if you want, that would be great. It'd be so much easier for me.
Pour nous, ce sera effectivement peut-être un peu difficile. Bon, je pense que ce qu'on peut dire sur ce match-là, c'est que côté français, ça va être une revue d'effectifs. Là, ce qui s'annonce, c'est que ça va être un petit peu tous les réservistes. On va avoir Machenot, on va avoir Raka, on va avoir Lopez. Bon, lui, il n'est pas vraiment réserviste, mais ça va être peut-être, il va jouer son match, il va jouer sa place en fonction peut-être de sa performance pour le match contre les Tonga et l'Angleterre. Je pense qu'après, contre les Tonga, ils remettront l'équipe des titulaires du match anglais, voilà, le match contre les Anglais. Là, ils essayent de faire jouer un peu tout le monde, donner sa chance et que les mecs ne soient pas venus au Japon que pour acheter des kimonos et bouffer des sushis, mais qu'ils aient quand même un souvenir de match, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu pars de chez toi pendant deux mois et demi, si tu n'as pas un maillot de match, c'est un peu dur à encaisser. Et c'est un peu ce match-là. Désolé pour les États-Unis de dire ça, mais je pense que c'est un peu ça le but pour nous.
Ce que je peux dire par rapport à cette équipe, c'est que je trouve ça étrange que je vois la numéro 10 qui maintenant qui va jouer elle. On manque notre flanqueur qui a pris les cartons rouges. Je suis un peu étonné par la composition de l'équipe. Mais écoute, il y a une chose, c'est sûr que je vais prendre plaisir pour regarder cette équipe de France contre mon pays à moi.
Non, moi, ce qui m'intéresse principalement chez eux, c'est qu'ils ont plusieurs Sudaf. Donc, simplement, ça valide ma théorie et ils le valident super bien. Voilà, donc je les remercie. On a du 2As, on a du Germi Suis. Honnêtement, on est très, très bien sur le plan du Sudaf. Voilà, moi, ça me convient.
Je pense qu'on est bien au niveau de barbe aussi, parce que si vous regardez le numéro 1, je pense qu'on peut le nominer comme dans les demi-finales pour la barbe, du Coupe du Monde.
On va regarder de près. Ouais. Moi, juste par rapport à l'équipe de France dont tu parlais, c'est vrai qu'on arrive, dans ces matchs un peu revus d'effectifs de la Coupe du Monde, sans évidemment manquer de respect aux États-Unis et aux Tonga, mais c'est un peu les matchs où tu vas faire tourner. On va voir, il y en a qui peuvent sortir du lot, il y en a qui peuvent. Et en effet, ceux qui vont, comme tu dis, ceux qui vont être alignés contre le Tonga, c'est ceux qui, a priori, devraient enchaîner après sur l'Angleterre. Mais du coup, ça va permettre à tous les joueurs un peu polyvalents, je pense, d'enchaîner des matchs, parce que là, pour faire toute cette revue d'effectifs, en ayant quand même deux équipes compétitives et sans cramer tout le monde, tous les Ituria, les Tamak, les Fiku, mais en gros, oui, ces joueurs-là vont être très précieux, et ça va permettre de faire une revue d'effectifs complète, avec juste à certains postes clés, des mecs qui vont devoir doubler, mais ils vont devoir doubler en changeant de poste a priori. Donc,
Pour résumer sur ce match-là, moi, ce que je dirais, c'est que j'espère simplement que le typhon va nous laisser tranquille et qu'on n'aura pas la troisième surprise du mondial. Quoi. Parce que les États-Unis qui battent la France, là, honnêtement, ça va être très très dur de continuer pack de potes. Hein. Là, on va être au fond du sac.
Il y aura ticket tout seul dans pack de potes.
Salut les copains, c'est une semaine géniale. Là, je ferai un anglais tout seul. Il y avait une chose qu'on n'a pas parlé, c'est en fait Bamba qui nous quitte, malheureusement.
Ouais, et ça, sur le Bamba qui nous quitte, c'est encore un signe de cette non-compréhension et cet amateurisme. Enfin, je trouve, c'est à la fois de l'irrespect et je trouve ça fait un peu clampin, quoi. Ça fait un peu les mecs savent pas ce qu'ils font. Mais le fait de faire une déclaration officielle aux journalistes sur les comptes en disant qu'il y a Antonio est appelé pour remplacer Bamba. Et 2 heures après, dire l'inverse. Non, je ne sais pas, c'est pas aussi long, mais il y a eu un battement comme ça où ils ont finalement
Je
annoncé.
sais même pas qui c'est au final. Moi, j'ai toujours pas compris du coup. Hein.
C'est celui du
Ah
Racing.
bah
C'est le mec du
c'est
Racing.
Cédate Gomez ça.
Qui a
Ouais.
déjà fait des matchs.
Ça
Ouais,
tombe
c'est
bien
ça.
parce qu'on n'a pas besoin de joueurs compétents en ce moment, hein,
Tout
vu qu'on est les mains au du guidon au niveau du top 14. Mais
va très
comme le
très
Stade
bien en
français
top
d'ailleurs,
quatorze.
visiblement.
Oui. Heureusement, on n'en parle pas trop en ce moment pour vous deux, vos fans de Paris.
Non,
Ouais.
on n'en parle
Moi,
pas.
je trouve dommage que ce n'est pas Antonio, parce que comme je pense que j'avais dit dans un de nos préludes, quand même, j'aime bien ce joueur, qu'il est gros,
Bien
beau et
sûr.
barbu, c'est parfait. Mais
Il
comme
est
moi.
gros et barbu.
Après, je trouve ça assez logique parce que je trouve ça plutôt pas mal parce que là, pour le coup, on voit une certaine logique dans les sélectionnés. Ils veulent faire de la vitesse et pas du poids. Enfin, ils ont fait un peu le choix des. Voilà quoi. Ils ont pris. C'est vrai qu'Antonio, il est formidable. C'est un mec qui avance avec 3 mecs dessus. Il peut continuer à avancer. Il met des charges, mais il a un petit peu moins de déplacement, je pense. Et du coup, c'est assez logique par rapport à ce qu'ils disent vouloir mettre en place, je trouve.
Tout à fait cohérent.
Donc, ce n'est pas le seul match de l'équipe de France cette semaine, parce que quand même, on a France-Tonga dimanche. Donc, ça va être leur deuxième match dans 4 jours. Donc, même si l'équipe de France joue leur équipe, allez, on va dire l'équipe 1- ou B+, contre les États-Unis, quand même, ils ont un sacré match le dimanche qui vient.
Oui, ce sera la rampe de lancement pour le match de la peur. Donc effectivement, de toute façon, c'est clair qu'ils vont ménager à fond les titulaires théoriques de cette doublette Tonga et puis Angleterre. Donc la fatigue, moi je pense que je ne veux pas en entendre parler. La Coupe du Monde, c'est la même pour tout le monde. Ils sont 31, ils ont de la récup, ils ont des masseurs, ils ont de la cryothérapie, les All Blacks qui se roulent dans le sable. Là, vous avez peut-être vu les photos. Je pense, bon, chacun trouve sa méthode, mais qu'on ne me fasse pas, désolé, j'étais fatigué. Moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Donc, qu'ils aillent gagner contre les Américains, qu'ils en passent une sérieuse aux Tongiens, qu'il n'y ait pas trop de pété à la sortie de tout ça, et qu'on arrive pour un petit crunch à l'ancienne, où on est à peu près les titulaires qu'on voulait, et qu'on se donne une petite chance, même si on n'est pas favori. Voilà. Mais qu'on n'ait pas des psychodrames et des maux de tête en arrivant avant de jouer contre les Anglais, parce que déjà, si on est en pleine possession de nos moyens, ça va être compliqué. Alors,
Alors, je pense que c'est très pensé. Hein. De toute façon, les deux matchs qui vont arriver, comme on a dit dans la revue d'effectifs, il y a le temps de repos, la façon de lancer bien sur le dernier match avant le fameux match de la peur, comme tu dis, contre l'Angleterre. Tout ça est très réfléchi. Moi, ce que je dirais sur les deux matchs à suivre, et particulièrement sur le match contre le Tonga, j'espère qu'on va juste tous croiser les doigts pour que Penaud sorte indemne de toutes les charges tongiennes qu'il va se prendre. Parce que. C'est notre petit chouchou pour le reste, pour la suite de la Coupe du Monde.
Ok, donc nous avons 2 matchs d'équipe de France cette semaine, donc plein de choses à voir. Nous avons aussi Écosse-Samoa lundi matin. D'autres matchs intéressants pour la semaine, Géorgie-Fidji quand même, parce que je pense que ça va être assez rude ce match-là.
C'est des beaux matchs à voir. C'est
Ouais.
des styles très opposés, donc ça risque d'être sympa, effectivement.
Pardon, j'avais un truc que je voulais dire par rapport à l'équipe de Géorgie, parce qu'on avait déjà dit au niveau de barbe, c'est des barbes de nécessité, mais quand même, Géorgie-Uruguay, je trouve les Uruguayens, ils ont des barbes de cow-boy dans les films, tu vois. Ils sont sur les plaines pendant 2 mois,
C'est
ils
clair.
reviennent et ils ont envie de se faire raser, quoi.
Ouais, mais l'équipe d'Uruguay, il n'y a pas que des barbes. Attention, il y a des barbes, comme tu dis, de cow-boy, mais il y a surtout un mulet. Il y a un mulet, et d'ailleurs, le mulet, il est pas sur n'importe qui. Il est sur Kessler, le joueur dont tu avais déjà parlé, parce que c'était un nom qu'on pensait qu'il est arrivé en Uruguay, plus vers 45, sa famille, parce que Kessler, ça fait pas très.
Et surtout que son prénom, c'est German. Et son prénom, c'est German.
German Kessler, et il a un mulet, mais de l'espace. Qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux, c'est déjà une star ce mec. Donc au-delà des barbes, il y a d'autres choses à aller chercher quand même.
On peut peut-être faire un focus moustache, hein, les gars. Moi, je veux bien. Hein. Ça va devenir compliqué après, aussi niveau système pileux, de tout suivre. Hein, mais bon.
Et ça m'étonne que vous n'avez pas capté en fait l'embuscade de moustaches qu'on a eue en Australie, Pays de Galles quand même, parce qu'il y avait des moustaches partout. Allez. Pour les autres matchs de cette semaine, on a aussi quand même Angleterre-Argentine qui est samedi matin. Donc ça, à 10h, je pense que je vais être cloué devant mon télé. En espérant que je crie pour le bon.
Ça, c'est un match à
Enfin,
voir, ça c'est
ouais, donc
clair.
on a dit qu'on n'était pas trop sûr qui on voulait gagner. Pas encore, mais bon, à voir. À voir. Il y a quand même Japon-Samoa, je pense que ça va être beau à voir. Et voilà, donc on a quand même beaucoup de matchs à voir pendant cette Coupe du Monde.
C'est vrai, alors juste un petit mot pour l'Argentine-Angleterre, même si je suis français et que du coup mon rapport aux Anglais est toujours un peu compliqué, j'ai toujours tendance à supporter les nations du Nord, moi, dans ce genre de
Ça nous
confrontation.
arrangerait pas vraiment que les Argentins gagnent, parce que ça ferait une sortie comptable un peu compliquée dans cette poule. Mais on pourra pas être malheureux si les Anglais perdent. Donc c'est l'avantage, c'est que dans les deux cas, on va y trouver notre intérêt.
Ouais, franchement, je suis un peu, tu vois, cette histoire d'essayer de marquer un dernier essai à 45-0, ça m'a laissé un peu, même si des Argentins, c'est un bête noir de la France, mais en fait, j'aimerais bien que ces matchs nuls 0-0 quoi, pour les deux équipes, parce que le typhoon, il attend, il arrive jusque ce match-là, quoi.
Mais c'est vrai qu'un match nul, ce serait parfait, quoi. Premier match nul, ce serait celui-là.
C'est vrai qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. J'espère que le match nul, le premier, va pas être France-États-Unis à cause du typhon, mais bon, ça c'est autre chose.
Allez les gars, on a beaucoup de rugby à regarder, ça va être super. Donc je vous remercie tous les deux d'être là avec moi. C'est vrai, quand même, comme tous les semaines, c'est un vrai plaisir d'être
plaisir
avec vous.
Plaisir partagé, hein. Plaisir totalement partagé.
Je suis ravi aussi de vous retrouver les copains à chaque fois.
On a beaucoup de rugby cette semaine. N'oubliez pas nos chers écouteurs, n'oubliez pas nos chers auditeurs que nous avons essayé de faire un petit bonus pour vous. Normalement jeudi soir, enfin vendredi soir pour faire un recap sur le match USA-France. Donc regardez vos iTunes, regardez Spotify, regardez notre site web pour notre prochain épisode.
Et notre Facebook, on l'annoncera bien sûr.
Ouais. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci beaucoup les gars, à bientôt.
À très bientôt.
Merci les copains, merci Tiquet, merci Théo.
Et aussi merci à Manu Rodier pour la super musique, c'est Pat de Pot et à très bientôt. Bye
ciao.
Bye.
Ciao, excellente semaine, bye.